élevé, qui parle pas, qui va pas trop embêter les autres, qui chahute pas, qui escalade pas tout à la récréation, bah c'est une bonne petite fille bien élevée à l'école maternelle. Alors que si c'est un petit garçon, il est bizarre. C'est pas normal. Donc on va avoir des éléments, des points d'appel, avec des comportements qui sont attendus chez les filles. Chez les garçons, on va avoir une posture différente. Aujourd'hui, dans la prévention des violences sexuelles et sexistes, avec les différents plans qui peuvent exister en France, il y a quand même cette idée de travailler et d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge, de leur proposer même des enseignements dédiés qui visent à déconstruire ces stéréotypes de genre-là. L'idée, c'est pas tellement de les nier, de dire ça n'existe pas et d'avoir un regard critique. Quand on va expliquer à un enfant à l'école maternelle et qu'on va chanter des comptines comme « Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince », on pourrait dire « c'est une comptine sexiste, on ne la chante plus, pas très constructif ». Par contre, on pourrait demander aux enfants « qui il y a dans l'histoire ? Comment vous savez ? Qui ils sont ?» pour les amener à réfléchir et à se rendre compte, eux, que bah, c'est une comptine dans laquelle il y a trois personnages, deux garçons et une fille. Donc il y a déjà dissymétrie. Sur les trois personnages, l'empereur et le prince ont un titre propre, alors que le personnage féminin n'a pas de titre. C'est la femme de l'empereur. Donc en fait, elle a, pour parler de l'impératrice, le même terme pour parler de la femme du boulanger ou de n'importe quelle femme du monde. Donc on voit bien qu'ici, il y a une description qui est déjà genrée, et qui va induire dans une comptine banale une représentation différente de la façon dont on va considérer les hommes des femmes. Et ça, c'est pas tellement à bannir, c'est intéressant d'inviter les enfants à réfléchir à ça, d'en prendre conscience, de proposer une autre version de la comptine, de se l'approprier, de la chanter, pour que, en fait, ils puissent développer un sens critique et que ça ne soit pas diffusé, comme ça a été longtemps le cas. C'est qu'à force d'être exposé dans un monde où on fait ça tout le temps, eh bien, ça devient évident qu'on est conditionné comme ça à considérer que le masculin l'emporte. Ça, c'est valable partout, parce que l'empereur, sa femme et le petit prince, le masculin l'emporte. Sur les personnages dans les histoires, sur les contes de fées, alors Disney plus que les contes de fées en général, qui sont moins dans cette vision-là, mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Et cette manière dont on va considérer les enfants, dont on va leur permettre de développer telle compétence, de se comporter de telle ou telle manière, certaines compétences étant davantage développées chez les garçons que chez les filles, on dit toujours que les femmes sont plus empathiques, mais parce que les femmes, on les encourage à jouer avec des poupées, à jouer avec des jouets qui vont travailler les émotions des autres. Alors qu'un petit garçon à l'école maternelle qui va vouloir jouer avec une poupée, il y a de grandes chances que la pression, souvent des autres enfants, peut-être parfois malheureusement des adultes, le dissuade d'utiliser ça, parce que ça, c'est pas un jouet pour les garçons. Donc il va jouer avec des voitures. Et donc c'est normal qu'après, quand il se retrouve avec un enfant dans les bras des années plus tard, il soit moins à l'aise que quelqu'un qui s'est tellement entraîné. Et dans la même image, on dit toujours « les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, pas les hommes ». C'est faux, c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. Elles peuvent faire plusieurs choses à la fois parce qu'elles sont entraînées à faire plusieurs choses à la fois. Si un homme vous l'entraînez à faire plusieurs tâches, il saura le faire, il n'y a pas de problème. Mais culturellement, c'est presque devenu quelque chose de l'ordre de la blague. On va dire, les femmes savent faire plusieurs choses à la fois comme si c'était par nature, alors qu'en fait c'est construit. Ça, c'est parce qu'on l'a développé. Des hommes qui se retrouvent à devoir s'occuper de leurs enfants parce que leur femme a une mission et qu'ils ont un enfant en bas âge, et cet homme, vous allez voir que très vite, s'il s'occupe d'un bébé pendant 3 semaines, même moins que ça, très vite, il saura faire plusieurs choses à la fois. C'est parce qu'il n'aura pas le choix. Et comme les femmes n'ont pas le choix, donc elles développent, elles ont la compétence.
Les crises chez les personnes avec un trouble du neurodéveloppement expriment souvent un besoin non verbal, comme la fatigue ou le bruit, et il s'agit de comprendre ce besoin plutôt que de punir. La neurodivergence, qui inclut autisme, TDAH ou haut potentiel, se repère mieux avec un diagnostic précoce permettant un accompagnement efficace. La médiatisation aide à libérer la parole, mais le diagnostic reste plus difficile chez les filles. L'essentiel est de passer du jugement des comportements à la compréhension des besoins de chacun, en déconstruisant les stéréotypes et en développant l'esprit critique.
Il y a des éléments qui sont visibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que la personne a un trouble du neurodéveloppement et qu'on lui demande avec de l'imagerie cérébrale de faire certaines tâches, on peut constater que des zones du cerveau s'activent un petit peu différemment ou pas exactement comme la plupart des gens. Ça, on le voit et on sait que statistiquement, des personnes qui ont de l'autisme en particulier, leur cerveau peuvent fonctionner parfois de manière différente, s'activer de manière différente, c'est pas les mêmes zones. Mais ce n'est pas assez fin et pas assez précis, pas assez puissant d'un point de vue statistique pour que quelqu'un dont on s'interroge sur un éventuel autisme le concernant, on fait de l'imagerie cérébrale et au regard des résultats, on va dire il y a ou il n'y a pas de l'autisme. Le diagnostic de l'autisme et des TND en général reste clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entretien, les comportements de la personne qui permettent d'eux. Aujourd'hui, dans l'état des lieux des connaissances, longtemps on a pensé que les personnes avec autisme, elles avaient certaines zones du cerveau qui étaient atrophiées, qui étaient plus grosses, qui étaient plus petites, parce qu'en faisant des cohortes, c'est qu'on a regardé plein de cerveaux de personnes autistes il y a très longtemps, Et on a trouvé que le cervelet était un petit peu différent des cervelets des personnes tout venant. Sauf que ça a été déconstruit par d'autres études qui mettent en évidence que c'est pas si simple, c'est pas si flagrant. Donc ce n'est pas du tout suffisant et on n'a pas d'éléments purement biologiques aujourd'hui, en 2025, qui nous permettent de dire, on va regarder le cerveau de la personne, les organes, la taille des organes, le fonctionnement, les interactions, et ce sera suffisant pour poser un diagnostic. Peut-être qu'un jour on y viendra, quand on aura de l'imagerie plus fine que ce qu'on a aujourd'hui et qu'on comprendra mieux le cerveau, encore mieux le cerveau, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas hein, dans le fond du cerveau aujourd'hui. Peut-être qu'on y viendra, mais en tout cas aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas de perspective à court, moyen, long terme de faire du diagnostic cérébral. Pourtant, c'est très courtisé parce que ce serait quelque chose qui, pour certains chercheurs, serait très intéressant d'arriver à mettre en évidence. Certains travaillent dessus, mais aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Comme cette forme-là, elle arrive là, et pour certains mammifères, on constate aussi ces comportements-là. Et il y a des études qui peuvent être montrées, on peut provoquer ça chez des souris, on peut constater que certains individus dans le règne animal peuvent avoir des comportements très atypiques qui pourraient évoquer ce que nous, on associe aux troubles du neurodéveloppement. Dans ce sens-là, c'est naturel dans le sens où ça arrive. Il y a toujours eu des personnes avec ce fonctionnement-là, même si là, aujourd'hui, avec les facteurs environnementaux, on montre que ça augmente un petit peu, c'est quand même quelque chose qui a toujours été là. Donc il y a un côté naturel. La différence, c'est que forcément, on comprend moins bien chez les animaux, et que pour beaucoup d'animaux, c'est une entrave à leur survie. Donc en fait, ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir perdurer dans le règne animal quelque part. Alors que pour nous, le fait de faire culture, une des caractéristiques de faire culture en tant qu'être humain, c'est de prendre soin les uns des autres, de ceux parmi nous qui ont des difficultés, donc par exemple un trouble de neurodéveloppement, c'est quelque chose qui va être présent. C'est quelque chose qui va permettre qu'on comprenne, qu'on accompagne ces personnes-là. Et qui fait que, évidemment, dans notre culture, aujourd'hui et avec l'essor moderne, il y a une centaine d'années, on n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnements qu'il y a 500 ans. Ou du coup, des personnes qui avaient ces atypicités-là, selon le contexte culturel dans lequel elles évoluaient, elles pouvaient soit être amenées à disparaître très vite, qu'elles le veuillent ou non, soient amenées à être identifiées comme des divinités, selon les cultures dans lesquelles vous êtes. Ou du coup, dans certains endroits du monde, quelqu'un qui aurait ces atypicités-là pourrait avoir une vie merveilleuse garantie parce qu'on va le considérer comme l'expression d'une divinité, d'un esprit. Et donc, toute la société va prendre soin de lui, il aura une vie très épanouie. Dans d'autres endroits du monde, ça sera traité de façon beaucoup plus dure. Et qui fait que ça existe partout, dans tous les domaines, dans toutes les cultures. Donc il y a ce côté naturel, parce qu'en fait on retrouve toujours cette proportion-là, quelles que soient les origines, quel que soit le milieu socioculturel, ça existe. Maintenant, une forme d'évolution de l'espèce, ça voudrait dire un petit peu comme les X-Men, comme les mutants, que du coup il y a une mutation et que l'individu, au sens Darwin, grandisse et qu'il ait un avantage sur les autres. Ou la présence de sa mutation chez lui fait que lui, il a plus de chances de transmettre ses gènes à lui plutôt que les autres. Dans les X-Men, ils ont des pouvoirs, ils sont plus forts, donc par rapport à ceux qui n'ont pas de pouvoir, voilà. La personne qui a l'autisme ou un TND, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est plus forte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes avec TND amènent quelque chose à l'espèce. Amènent quelque chose en termes de penser vivant, penser différemment, avoir un regard différent sur le monde. Et il y a beaucoup de personnes avec autisme en particulier dont l'intelligence peut aussi permettre un pas de côté et peut apporter beaucoup à l'humanité. Donc le fait de les intégrer dans notre société, c'est une vision inclusive. C'est pas on les prend avec nous parce que nous, on fait preuve d'une grâce ou on est bien gentil et voilà, ces petits gens-là. C'est qu'en fait, ils ont leur place au même titre que n'importe qui et que leur autisme ou leur TDAH ou leur neurodivergence, pour reprendre le terme, peuvent aussi contribuer à ce qu'elles aient un regard sur le monde qui va être différent de celui de la plupart des gens. Et ce regard peut contribuer à l'évolution du monde aussi, comme celui de n'importe qui. Donc elles ont leur place. Beaucoup de personnes qui vivent avec des personnes autistes, par exemple, expliquent à quel point c'est difficile, c'est éprouvant, mais à quel point aussi ça peut les enrichir sur le plan humain et à quel point elles remercient, quelque part, le fait d'avoir cette occasion de vivre avec ces personnes neurodivergentes qui leur amènent un regard différent sur le monde et qui permet aussi de remettre en perspective les choses et qui sans doute contribuent à ce qu'on appelle le bonheur pour elles. Mon espoir, ce serait peut-être qu'on arrive à continuer à les impliquer le plus possible dans cette démarche-là, pour être sûr que nous, chercheurs, on cherche dans une direction qui serait fonctionnelle et qui répond à leurs besoins. Et pas chercher pour chercher. Parce que quand on est chercheur, souvent, on ne trouve pas. Ce qui compte, c'est l'effort qu'on déploie au service d'une cause. Et donc, mon espoir, c'est de garder toujours en tête cette cause et que cette cause elle soit co-construite avec les personnes qui en ont besoin et qui en bénéficient. Donc, de s'assurer que les personnes avec autisme, les personnes avec TND, les personnes avec TDAH et leurs proches, leurs familles, puissent être toujours interpellés et qu'on soit vigilant au fait que ce sur quoi on mobilise nos efforts dans le domaine de la recherche répondent à leurs besoins, répondent à quelque chose qui contribuerait à améliorer leur qualité de vie. Ce qui est par exemple le cas de ce qui est déployé aujourd'hui avec la cohorte Marianne.
L'autisme ne peut pas encore se diagnostiquer avec une radio ou une IRM. Le diagnostic reste clinique, basé sur l'observation et les entretiens avec des spécialistes. C'est une variation naturelle de l'humain qui a toujours existé. Selon les cultures, elle était parfois vue comme un don. Aujourd'hui, on comprend que les personnes autistes ou avec un TDAH perçoivent le monde différemment et apportent un regard unique. L'important n'est pas de les changer, mais de construire une société inclusive et de mieux comprendre leurs besoins pour améliorer leur quotidien et profiter de leur vision originale. Voilà, chers auditeurs, cette série de Repartons sur la Maison de la Recherche en Santé Mentale s'achève. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Repartons. En attendant, à bientôt sur nos ondes.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Le super son des 60s. Une émission qu'elle est vachement bien présentée par Léonard Michalon. Gone, nous dit le colonel. Salut à tous et bienvenue dans le super son des 60s, le meilleur de la plus belle des décennies, vachement en vinyle et presque en direct avec au programme ce jour la délicieuse Laverne Baker, The Richard Kent Style, avec l'accent s'il vous plaît, cela sont complètement britanniques, The Frontline, non pas très engageant pour ces américains, Roger Byrne, ça c'est une petite découverte, et puis on va ouvrir avec notre duo fille-garçon, et ici il s'agit de Inez and Charlie Fox, un petit peu de soul enregistré en 1963. On a longtemps cru que ces deux-là étaient mari et femme. Non, non, c'est un frère et une sœur. Ils sont nés en Caroline du Nord. Ils ont commencé comme il se doit à la chorale du Temple et ils sont connus donc pour ce morceau Mockingbird que l'on va écouter là et qui au départ est une chanson traditionnelle pour les enfants et qui s'appelle Hush Little Baby. Ils vont complètement la réarranger et bingo, 10e dans les charts aux États-Unis. 1 million de singles vendus et puis pas mal de reprises quand même. Carly Simon, Taj Mahal, Aretha Franklin, ce sera leur seul fait d'armes. Et on va pouvoir s'en rendre compte, c'était plutôt bien fichu.
See, he's gonna find me a diamond ring. And it's
va aller faire un tour en France avec France Gall et ce morceau enregistré en 1969, Les Quatre Éléments, écrit et composé par Patrice Gall, mais oui, c'est son frère. On retrouve d'ailleurs sur cette EP de quatre morceaux un autre morceau fabriqué, lui, écrit et composé par Robert Gall, c'est le papa. Et le producteur étant Norbert Saada, on lui le connaît, puisque dans les années 70, il aura aussi une carrière comme producteur de cinéma. On lui doit notamment Il était une fois la Révolution, Monsieur Klein ou Canicule, voilà, trois chefs-d'œuvre à voir absolument. Et puis donc, à ce morceau de 3 minutes 30 quand même, hein, à la fin des années 60, on tire déjà vers les années 70, il y a quelque chose un petit peu hors du temps dans ce morceau. Sur un texte assez mystérieux, on va repartir aux États-Unis en 1959 avec un petit peu de rhythm and blues, Laverne Baker, de son vrai nom Dolores Williams, et ce morceau Tiny Tim, qu'aurait pu faire, tiens, un bon thème de cinéma, pourquoi pas, une carrière qui s'étale entre 1956 et 63 pour cette chanteuse qui entrera au Rock'n'Roll Hall of Fame en 91 sur une présentation de Chaka Khan, s'il vous plaît, mais oui, et d'ailleurs dans son discours d'intronisation, Chaka Khan rappelle que la voix de Laverne Baker fusionne le rhythm and blues, le jazz et le blues, et que ce mélange a permis l'émergence des musiques des années 60. Pas mal, pas mal. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur le site rockall.com.
A Tiny Tim is a lover. She's small in size and fits any place. A Tiny Tim is a lover.
Faire un tour en Albion avec The Californians, un groupe complètement britannique. Ils venaient de Wolverhampton, ces garçons-là. Et voilà, un single sorti milieu des années 60. J'ai plus la date. Une petite recette de cuisine, The Cooks and of Cake and Happiness, pourquoi pas. Single aujourd'hui complètement introuvable, écrit et composé par le producteur John Carter et son alter ego Russell Allquist. Quatre garçons donc qui n'ont pas eu beaucoup de succès, une forte influence des Beach Boys et des Four Seasons, et j'ai retrouvé Peter Aberley qui était à la voix et à la basse et qui avec une pointe d'humour dit: avec notre musique très plaisante dotée de belles harmonies vocales, nous avons eu beaucoup de succès dans notre ville.
Are somewhere to be found. The cooks of cake and kindness all around. The cooks of cake and kindness are somewhere to be found. The cooks of cake and kindness all around. We have not seen any water anywhere at all. Sun up in the sky has even dried the waterfall. We have not seen any water for at least 100 days or more. Won't y'all say that drink is splashing on our face? Don't you see our bodies upon this desert place? If you don't send any water in the media, think of our cake and kindness are somewhere to be found. The cooks of cake and kindness are somewhere to be found. The cooks of cake and kindness are somewhere.
Si le travail des Californians vous intéresse, tout a été réédité en 2019. On va rester en Angleterre du côté de Manchester avec The Richard Kent Style. 7 garçons tout de même. Et il n'y a pas un, des gars qui s'appelle Richard Kent. Et pas même un album pour eux. Pourtant, excellente formation. Très certainement plus habitués au live qu'aux enregistrements en studio. Trombone, trompette et saxo, s'il vous plaît. On va les retrouver là dans Just a Little Misunderstanding. Un titre donc signé Clarence Paul et Stevie Wonder. Et puis voilà, leur seul fait d'armes sera d'avoir ouvert pour Del Shannon et Paul Jones, et puis d'avoir tourné un petit peu dans tous les clubs de la ville. La presse et les témoignages que j'ai pu trouver sont assez élogieux, mais le tout a fait flop. Du coup, on les ressort de là. On va aller faire un tour du côté du Texas, dans la bonne ville de Houston, pour retrouver les Coastliners. Alors le Texas, c'est une terre de garagistes. Ce groupe sait faire du garage, et là aussi j'ai retrouvé des témoignages comme quoi c'était un bon groupe de live et qui pouvait passer du garage ou plutôt à une pop de style Beatles, Beach Boys, pas mal. Et il paraît qu'ils se sont réunis pour un concert en 2015. À l'intérieur de ce groupe, il y avait Rex Kramer, un garçon qui aura fait une petite carrière comme chanteur country dans les années 70 avant de finir en prison. Mais j'ai pas retrouvé la cause, on va les retrouver là plutôt nous en 65 du côté de la musique avec All Right.